Des poils sous les yeux, l'interview. Bonjour Merléance Bone, on se rencontre aujourd'hui pour parler d'un événement dans le monde un peu fermé de l'underground rock'n'rolleux. Il s'agit de la récente parution de Gun Club, 24 histoires pour Jeffrey Lee Pierce aux éditions Camion Blanc, sous la direction de Jean-Noël Levavasseur. Alors tu as participé en tant qu'auteur à ce recueil. Je précise en tant qu'auteur parce que sous le pseudonyme de Merléance Bone se cache aussi un artiste peintre, un artiste à la palette d'expression assez large. Tu écris aussi des poèmes, par exemple.
Exactement, ouais, tout à fait.
Alors, Gun Club, 24 histoires pour Jeffrey Lee Pierce, est le nouvel opus d'une série impulsée par Jean-Noël Levavasseur, qui propose à différents auteurs d'écrire des nouvelles autour de phénomènes musicaux, un recueil de nouvelles autour des Cramps, des Ramones, des Berruriers Noirs, entre autres. Et pour ce dernier recueil, des auteurs ont donc été invités à écrire sur Jeffrey Lee Pierce et le Gun Club. Le Gun Club, pour les non-initiés, c'est le groupe formé par le mythique Jeffrey Lee Pierce, disparu il y a pas loin de 20 ans et dont le nom reste inconnu au plus grand nombre. Alors à sa mort en France, le journal Libération titrait « Mort d'un loser », un titre un peu paradoxal quand on voit aujourd'hui la prestigieuse descendance qui se revendique de lui, parmi lesquels les Pixies, Nick Cave, plus près de chez nous, Noir Désir et Bertrand Cantat, qui lui a consacré une chanson sur l'un de ses plus célèbres albums. La chanson s'appelle « Song for JLP ». Est-ce que tu peux nous présenter un peu Jeffrey Lee Pierce et nous expliquer pourquoi cette sorte de loser magnifique suscite aujourd'hui un engouement tel qu'on édite des livres, des disques aussi, en son hommage?
Alors, c'est-à-dire qu'il y a toujours eu une sorte de vie pleine de malentendus. C'est quelqu'un qui, de par sa radicalité, de par son intransigeance, n'a jamais voulu céder aux sirènes et n'a jamais voulu se conformer à quelque chose de contraignant, de rigide. Donc c'est quelqu'un qui a une animalité, on va dire, même dans sa manière de vivre, et ce, depuis son adolescence, quoi. Bon, après, il y a une espèce de mythe maudit de l'artiste écorché, à vif, qui ne transige pas. Il y a aussi une espèce de besoin, d'appétit qu'on a, sociétal, de se gargariser, et puis de... avec ce genre de personnalité un petit peu incontrôlable. C'est aussi quelqu'un de touchant, c'est pas que quelqu'un de brutal, c'est pas qu'une brute, je veux dire, créative et jaillissante, parce que c'est vrai qu'il était très dur à gérer, de par ses excès pour tout son entourage, mais notamment ses musiciens. Il a compté beaucoup, un peu comme on disait du Velvet, qu'il aurait compté énormément pour tous les gens qui auraient eu la chance de pouvoir les voir en concert et de créer eux-mêmes un groupe. Les Gun Club, ça a été un peu la même chose. Il a compté beaucoup pour toute une génération de musiciens contemporains de Jeffrey, mais dans une béatitude de sa personne quand même. Mais il a compté beaucoup aussi pour les musiciens européens. Il y a eu un accueil fort qui a été fait parce qu'il y a des gens de New Rose, par exemple, dans les années 80, ont pu aider... à ce que le Gun Club en France ou en Europe devienne un groupe important. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui, contrairement à d'autres groupes de cette génération-là, où on parle de Nick Cave, il y aurait tout un truc à dire sur l'influence du vaudou et de la personne donc de Jeffrey Lee Pierce dans sa recherche d'expérience comme ça autour du vaudou, du delta blues, bon, de tas de choses, d'idiomes comme ça importants qui ponctuent et qui ont influencé par exemple Nick Cave fortement. Mais c'est vrai que Nick Cave apparaisse dans les Jeffrey Lee Pierce Sessions fomentées par Cypress Groove à l'heure actuelle est une sorte de juste retour des choses, quoi, une dette assez logique. À l'époque où Jeffrey Lee Pierce commence à s'agiter, il y a tout un bain qui est foisonnant et qui est hyper, qui est axial, qui est essentiel, qui est séminal pour comprendre les Gun Club. Il y a sa rencontre avec Kid Congo qui est quelque chose de déterminant. Ils sont tous les deux de Los Angeles, ils traînent leur adolescence dans les faubourgs de Los Angeles ou à Los Angeles même, avec le fait d'avoir en commun des origines mexicaines. Bon, ça rapproche indirectement. Ils sont tous les deux présidents de fan club de groupes importants, Blondie pour Jeffrey Lee Pierce, les Ramones pour Kid Congo, donc ça aussi, il y a une approche un peu de nerd, un petit peu fan d'eux au départ, et puis à côté de cela, il y a tout un bain qui va se développer d'un punk émergent fin 70, super excitant de par le fait que c'était un punk progressiste, libertaire, et pas du tout fermé ou straight edge comme on a pu le connaître après dans une forme de rétrécissement un peu sociétal où les punks sont devenus pour certains plus, pas facho, mais dans une droiture un peu de recherche de pureté.
Alors pour parler du livre et des nouvelles qu'il compose, ce qui m'a frappé, c'est qu'on ne sait jamais vraiment faire la part entre le réel et la fiction. Moi, j'ai eu l'impression que chacun des auteurs était comme personnellement impliqué dans l'écriture de sa nouvelle. Certaines nouvelles sont ouvertement autobiographiques, alors je pense à Hurts, la nouvelle écrite par Olivier Martinelli. D'autres nouvelles sont moins ouvertement autobiographiques, pourtant ce qui reste, c'est un sentiment d'implication personnelle des auteurs dans leurs écrits. Est-ce que selon toi, c'était le souhait de Jean-Noël Levavasseur ? Est-ce qu'il souhaitait voir apparaître en filigrane cette implication ? Est-ce que ça faisait partie de la commande ? Alors, pour toi, par exemple ?
Non, enfin, je ne sais pas comment ça s'est passé pour les autres, mais je pense qu'ils ont une logique traditionnelle, ils sont habitués à fonctionner ensemble, dans le sens où c'est un peu une bande de partners in crime, tu vois, il n'y a pas de... Je pense qu'il y a beaucoup de liberté laissée par Jean-Noël et que ça a été la même chose pour les autres, quoi. Il y a un canevas commun, c'est de se dire qu'on part d'une chanson, par exemple, choisie, et cette chanson, soit, à partir de cette chanson, peut se broder comme un canevas énormément de choses. Et c'est vrai que tu as raison, dans le livre, le prisme, le biais est super différent selon les individus. Il y a un investissement personnel très touchant. Enfin, moi, j'ai trouvé à la lecture de tout ça, des différentes nouvelles, c'est très personnel, quoi. Et il y a une subjectivité forte qui se retrouve, je pense, qui est un peu commune à tout ce qui a été écrit. Et c'est ça qui est bien. Ça ne se dépersonnalise pas, quoi. C'est, par rapport à ce que tu demandes, ben non. Je pense que c'est cette possibilité, cet écrin de liberté laissé par quelqu'un aussi cool que Jean-Noël Levavasseur. Enfin, je veux dire, en ce qui me concerne. L'intégration dans le truc s'est fait avec une telle simplicité que ça n'en était pas français du tout. Là. Mmh. on va dire, c'est vrai qu'on a quand même plus, on est plus habitué à des paliers, à des caps, à un respect hiérarchique, éditorial. Il faut montrer 15 000 fois patte blanche pour pouvoir exister dans un projet comme ça. Et la confiance et puis l'appui du texte a fait que. Ça s'est fait de manière très, très décontracte. Mmh.
Toi, par exemple, dans ta nouvelle Bad Indian, tu as fait le choix de faire apparaître au moins un personnage réel en dehors de JLP, de Jeffrey Lee Pierce et de sa bande. Et du coup, je me demandais à quoi correspondait chez toi ce besoin d'ancrer le récit dans la réalité.
Ben, c'est un personnage très gun clubien, en fait, Vincent Allain, quelque part. En fait, l'évocation de Vincent se fait. Ça parle des années. Ça parle de 92, en fait. Et ce qui me plaisait, c'était de donner une température, un petit peu. De donner une. Bon, évidemment, d'années 80 finissantes et maltraitantes. D'années 90 tristes et désertifiées. À partir de là, ce qui est troublant et touchant et triste et bouleversant à la fois, c'est de se dire que. Eh ben, il y a encore, de manière antédiluvienne, on va dire, des dinosaures. Quoi, c'est une figure underground qui a eu un parcours de vie assez bordélique comme nous tous, et puis et qui, alors on est toujours un peu dans les thèmes de rédemption, et qui, après avoir été footballeur professionnel, à la suite d'avoir connu un accident grave dans une période de jeune espoir un peu excessif, en bagnole, Ferrari plié, coma, après ça, bah, est sorti de cette espèce de vacuité de vie, voilà, sur lequel il y a eu beaucoup d'investissements, comme beaucoup de jeunes footballeurs, on va dire, voilà, à qui on promet monts et merveilles, qui a été un footballeur de grande qualité, soit, mais Vincent Allain, c'est par le biais du cinéma, de Cassavetes, c'est par le biais des Bad Seeds, des Ailes du Désir, c'est par le biais du Gun Club ou des Cramps que, par exemple, ce personnage-là trouvé des choses plus essentielles dans sa vie que, voilà, qu'être un poulain sur lequel on parie des choses avec de la thune, voilà. C'est ce qu'on retrouve dans l'écriture, beaucoup des chansons, dans l'histoire des chansons de Jeffrey Lee Pierce, c'est beaucoup de choses un peu tortueuses, de personnalités inquiétantes, sur lequel se crée une cathédrale, une belle cathédrale, quoi, une cathédrale foisonnante, enfin, je sais pas, voilà. Mais il y a du marasme, il y a du sombre, il y a du glauque. Et...
Ah oui, il y a du glauque.
Il y a aussi les Chrome Cranks, qui sont un des rares groupes à être détenteurs, avec John Spencer ou d'autres, d'un rock'n'roll urgent et un peu animal comme ça, tout droit issu des Birthday Party, des Gun Club, des Cramps. Et Dieu sait si, c'est pas que les années 90 n'étaient pas excitantes, il y a eu le grunge, etc. Mais même si c'est des figures justement qui perpétuent quelque chose, justement. C'était important pour moi d'évoquer, de saluer les teneurs de flambeaux, voilà. De gens qui, comme Vincent Allain, qui écoutent énormément, des gens comme Peter Aaron, le chanteur des Crump Cranks, ou de groupes comme ça, voilà, qui perpétuent une soif.
Je voulais quand même dire que j'ai été alors le mot est pas beau, mais bon, tant pis, épatée par la qualité des textes, qui sont souvent à la frontière, ou même carrément dans le glauque, hein. On parle de chambres d'hôtel miteuses, de salles de bar crades, de ruelles sombres, de drogue, de sueur, de prison, bref, d'un univers pas forcément réjouissant ni très divertissant. Pourtant, cet univers est toujours relaté avec une grande élégance. Je pense notamment à ta nouvelle, hein, Bad Indian, qui décrit une plongée, je crois que c'est Amsterdam, hein, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Voilà, dans la nuit, dans les rues, là, où on part un peu à la recherche de Jeffrey Lee Pierce dans un contexte assez folklorique. Et donc, alors, les nouvelles sont d'une grande élégance, hein, je redis le mot, avec chacune des styles très personnels qui nous font passer la pilule. On sort pas malgré tout de ce recueil complètement défait ou démoralisé. Est-ce que toi tu peux nous dire quelques mots sur les nouvelles, les illustrations aussi, parce que les illustrations, il y a un travail assez important sur ce bouquin-là aussi.
Mais c'est vrai que bon, bah, si ça fonctionne, tant mieux, hein. Puis ça, c'est quelque chose de chouette pour nous tous. On peut voir, c'est vrai, quand on a le livre entre les mains et quand on lit un peu, quand on pérégrine, on va dire, à travers les nouvelles, ce qui frappe de manière assez troublante et touchante, c'est qu'il y a un squelette, quasi peut-être, alors bon, on serait tenté de dire le squelette de Jeffrey qui tisse tout ça, le squelette de Jeffrey trouvé dans le désert, en fait. Il y a un côté, il y a un souffle fort qui fait que peut-être que c'est dû à l'amour que tous ont de ce personnage, de la musique, de la création de ce type, hein, qui nous a quand même tous marqué fortement. Et c'est vrai que ça donne l'impression d'une continuité très cohérente et assez troublante, en fait, avec l'habileté que Jean-Noël et Dom Disorder de Camion Blanc de savoir, un peu comme une playlist, hein, savoir comment, dans quel ordre mettre toutes ces nouvelles-là. Donc il y a une histoire, hein, il y a un fil cinématographique, quasiment,
peu, oui,
hein, que tu constates, et c'est bien que ça puisse être constaté comme ça, même si les approches sont très différentes dans la manière d'aborder la chanson, parce que c'est quand même, faut pas oublier que le canevas qui tient, le tuteur qui tient chaque nouvelle, c'est partir d'une chanson, et ce qui permet par extension de pouvoir parler totalement des Gun Club et de Jeffrey Lee Pierce, mais ou d'aborder la chose par un vecteur, un biais un peu personnel, qui confisque pas, qui égocentrise pas le truc. Il y a des nouvelles très touchantes, je pense notamment à celle de Marion Chemin, qui aborde quelque chose qui bouleverse. Elle nous parle de son père à l'hôpital, hein, de se lancer dès le début de la nouvelle dans un débat entre le père et la fille sur l'intérêt esthétique, l'importance de l'apport qu'il y aurait entre un Elvis Presley, un Jeffrey Lee Pierce, ou l'influence que ça a pu avoir sur Bertrand Cantat, par exemple, genre de truc, où il y a une sorte de conflit générationnel et un peu sociétal entre un père qu'elle prétend même être durement dire qu'il était beauf, que c'est un beauf, mais qu'elle aide à partir dans un soulagement parce qu'il est en phase terminale. Et moi, cette nouvelle, je l'ai trouvée super touchante. Il y en a plusieurs comme ça. Celle de Stanislas Petrovski à partir de My Dream, hein, une des chansons où on se rend compte que là, le vecteur, la porte d'entrée, c'est une fille, hein, qui permet à l'auteur, hein, au personnage ou à l'auteur, hein, parce que c'est un peu étroitement lié et on ne sait pas trop, de rentrer dans l'univers des Gun Club par le biais d'une rencontre à la suite d'un concert. Aussi chez Martinelli, chez qui une fille rencontrée dans un concert des Cramps, qui est initiatrice un petit peu esthétique
oui.
de, des portes ouvertes, d'élargir un peu, qu'il y a les crampes, c'est le système des crampes, s'il y a d'autres univers, d'autres accointances familiales, on va dire, et notamment les Gun Club. Donc une fille un peu très en avance, typiquement 80, on va dire, de fille passeuse, un peu arty comme ça, punkette, qui lui fait connaître...
Bah, qui lui fait découvrir, hein, clairement.
Qui lui fait découvrir les Gun Club, voilà.
Pas,
alors bon, après, ça lui échappe un peu parce que Jeffrey, qui paraît lourdeau et qui paraît empâté, qui paraît finissant aux yeux de l'adolescent qui accompagne donc sa petite copine au concert, Jeffrey l'emporte quand il part dans le champ. Et ceux qui ont pu le voir, ont eu la chance de le voir, c'était le cas. C'est vrai, c'est que c'était très poussif au départ en concert. C'était à la fin... Là, moi, je les avais vus en 92 à Paris. C'était ça, c'est-à-dire que sur scène, c'est le bordel au départ. Tu sens qu'il y a des tensions. Tu te demandes qu'est-ce qui va jaillir de ce type qui te paraît complètement finissant. Et en fait, il y a un truc qui s'installe qui est de l'ordre de la magie au fur et à mesure que le chant se fait et puis que la musique envoie sévère, quoi. Et donc, je vois très bien cette fille et d'autres filles complètement fascinées. Par contre, chez Stanislas Petrovski, ça finit mal parce qu'en fait, ce qui revient souvent, c'est qu'il y a un floutage qui se fait entre une biographie peut-être évoquée de chaque auteur ou pas à travers des personnages et un moment hallucinogène réel dans lequel on tombe qui fait qu'on est de plein pied dans la chanson. On devient soi-même acteur de la chanson, comme si on avait été écrit un peu par Jeffrey. Il y a des voyages dans la chanson s'incarne d'elle-même. Hein, la chanson prend forme par le biais d'un vecteur d'une histoire. Ou alors, à travers des biographies évoquées comme ça, on est toujours à mi-chemin entre la fiction et la réalité, halluciné, malsain peut-être, bousculé, violenté. Cypress Grove, qui était un proche de Jeffrey Lee Pierce, m'avait demandé d'écrire quelque chose pour le troisième opus des Sessions, en fait, dans lequel on trouve des participations fameuses comme... à la fois Bertrand Cantat, Pascal Imbert de Passion Fodder, 16 Horsepower, mais aussi donc Nick Cave, Slim Cessna de la scène de Denver qui a été énormément influencée par Jeffrey Lee Pierce, par les Gun Club, les Iggy Pop, Blondie, enfin Debbie Harry. Donc c'est vrai que pour moi ça a été chouette de pouvoir déjà participer à l'aventure par le biais d'un liner note. C'est une sorte de poème un peu extatique. On serait tenté de dire que Jeffrey Lee Pierce n'est pas salué comme il se doit. Est-ce que ça serait intéressant de le faire? Je sais pas. Est-ce que ça serait
je le trouve extraordinairement vivant, hein, que ce soit au travers des disques, mais notamment de ce recueil, en fait.
Super.
On a un mort vivant, en fait.
Un mort vivant, réactivé, ouais. On a...
La sorcellerie, là, qui se passe.
Oui, alors on a tous officié, tous ensemble, pour humblement chacun. Après le travail très conséquent de Cypress Grove, là, qui est quand même quelqu'un d'assez étonnant, qui fait la préface, d'ailleurs, du livre. Préface assez pointue. Assez ciselé des rapports entre la chanson et la nouvelle, les qualités d'écriture, la technique d'écriture.
Il parle également de la difficulté de l'exercice.
L'exercice, exactement, la concision, tout en y mettant une sorte d'architectonique à l'intérieur d'un format quand même assez contraignant. C'est vrai que Cypress Grove, c'est un gars qui a beaucoup aidé à ce que la mémoire de Jeffrey se réactualise en permanence, parce que c'était un des, j'en parle un peu dans ma nouvelle, mais c'était un des derniers témoins jeunes à l'époque, touchants, observateur de la fin de vie, on va dire, de Jeffrey, qui est marqué à vie par ces moments de partant, un peu comme Daniel Darc avec Frédéric Lowe, qui a aidé un peu en tant que voisin de palier de Daniel Darc, a aidé Daniel à sortir des... à réactiver une nouvelle forme de créativité qu'on pensait assécher, quoi.
Merle Léonce-Bonne, merci beaucoup pour cet entretien.
Merci Cathy Martineau.
Gun Club 24 Histoires pour Jeffrey Lee Pierce, donc paru aux éditions Camion Blanc sous la direction de Jean-Noël Levavasseur. Rapidement, où est-ce qu'on peut se procurer l'ouvrage?
Demandé par le biais d'un bon libraire passionné de rock'n'roll ou même
pas. On va sur le site.
On va sur le site, sinon directement.
Camion Blanc.
Camion Blanc, ouais.
C'était l'interview des poches sous les yeux. Retrouvez cette interview sur radiobeton.com, despochessousyeux.fr ou encore la page Facebook des poches sous les yeux.